En 2020, le gouvernement malien a été renversé par l'armée. Mais cela n'a rien réglé et l'année suivante, la population est sortie dans la rue contre l'incurie de l'État et la violence des groupes armés et la présence française. Le régime du colonel Goïta s'est appuyé sur ce mouvement. L'armée française, enlisée dans tout le Sahel, décida à ce moment de quitter le Mali. Goïta apparut alors comme l'homme qui résiste à la France et s'est ainsi taillé une popularité. Mais elle est usurpée. Il est le chef d'une armée dont les soldats répriment toute contestation, alors que la population est à bout de nerfs à cause de la vie chère et de la corruption qui gangrène tout. Pour remplacer les troupes françaises au Mali, Goïta a bruyamment fait appel à la milice russe Wagner. Les médias français en ont profité pour alimenter le mythe que la Russie, alliée de la Chine, allait chasser les Occidentaux d'Afrique. En Afrique, quelques entreprises russes opèrent bien, comme Russal pour la bauxite de Guinée. Mais la présence en Afrique de la Russie reste limitée, avec des échanges commerciaux comparables à ceux de la Turquie. Derrière les annonces de l'avancée de Gazprom et d'autres conglomérats russes montés en épingle par les médias français, il y a très peu de réalisations concrètes. Et puis, il y a Wagner, qui aurait actuellement 1500 mercenaires au Mali. Mais cette société militaire privée est comme ses concurrents, qu'elles soient sud-africaines, américaines ou françaises. Elles vendent leurs services aux plus offrants dans des régions de guerre et d'instabilité profonde. Dans les zones où Wagner opère, des affairistes russes ont mis la main sur certaines mines, mais c'est dans des quantités très petites. En Centrafrique, l'Eldorado africain promis aux 1000 mercenaires de Wagner ne paye guère. Et ils se rabattent, comme les autres miliciens, sur le racket, le trafic de peau ou d'ivoire. Fin 2022, les États-Unis ont proposé au régime centrafricain de former ses troupes en échange de l'expulsion de Wagner. Cela ira-t-il jusqu'au bout? Après un intermède russe, la Centrafrique basculerait alors du précaré français à la zone d'influence américaine. Mais pour les populations, ces revirements sont une impasse. Remplacer les barbouzes tricolores par des soudards russes formés en Tchétchénie à terroriser la population ne fait qu'alimenter le chaos. Et la présence de Wagner ne remet même pas en cause la domination impérialiste. Les mines d'or du Mali, la principale ressource du pays, sont toujours exploitées par des groupes occidentaux, comme l'anglo-canadien Randgold, et l'une d'elles est sous-traitée à une filiale de Bouygues. Que la colère populaire soit canalisée par un colonel malien, que les mines soient gardées par des mercenaires russes, si ça permet que l'exploitation continue, c'est finalement une bonne affaire pour les capitalistes. Mais un nouveau concurrent est apparu ces dernières années. C'est la Chine. Elle est même présentée comme la nouvelle puissance dominante en Afrique, mais une puissance déloyale, car ne respectant pas les valeurs démocratiques des honorables investisseurs occidentaux. En France, ceux qui ont toujours refusé l'expression « France-Afrique » n'hésitent pas à parler de « Chine-Afrique ». L'ancien vice-président américain Mike Pence a même accusé la Chine de piéger les pays africains par la dette, quand le vautour en chef se fait passer pour la blanche colombe. Alors, quelle est la... Alors, quelle est la réalité derrière cette propagande intéressée? La Chine est devenue en 20 ans une partenaire commerciale de premier plan du continent. Des chemins de fer du Soudan aux routes au Congo jusqu'à la grande mosquée d'Alger, la présence des entreprises françaises est spectaculaire. Et en même temps, les capitaux chinois représentent moins de la moitié de ceux de la France ou de l'Angleterre. La Chine reste une puissance secondaire. Les capitaux chinois visent surtout les minerais et le pétrole dont la Chine a un besoin vital pour ses usines. Ce sont essentiellement des entreprises d'État qui font ces investissements, et surtout dans des secteurs délaissés par les groupes occidentaux, car peu rentables ou trop risqués. Par exemple, la République démocratique du Congo a signé en 2008 avec la Chine un contrat de 9 milliards de dollars. Des entreprises chinoises obtenaient les droits d'exploitation de mines de cobalt et de cuivre, en échange de la construction de 32 hôpitaux, 7000 km de routes, 2 universités et d'autres travaux. Les dirigeants congolais présentaient alors ce plan comme une grande opportunité de développement, car les financiers occidentaux étaient réticents à accorder de nouveaux prêts à cet État en quasi-faillite. L'État chinois, lui, apportait sa garantie avec une hypothèque sur les terrains miniers en cas de défaut. Les puissances occidentales dénoncèrent, sans blague, un néocolonialisme. Le FMI et la Banque mondiale firent pression sur l'État congolais pour diminuer le montant du contrat, qui passa de 9 à 6 milliards. En échange, le FMI diminuait la dette de l'État congolais, de toute façon impossible à rembourser. Les puissances occidentales utilisaient l'arme financière pour limiter l'avancée de leurs concurrents chinois. 15 ans plus tard, les mines ont ouvert, ainsi qu'un barrage hydroélectrique qui alimente une usine de traitement de minerais de cuivre. Mais les habitants voisins n'ont pas accès au courant électrique. Un seul des 32 hôpitaux a été construit et 600 km de route sur 7000. La Chine se taille ainsi une part du gâteau, mais pour la population africaine, les conséquences ne sont guère différentes de la période des éléphants blancs. Si les dirigeants posent aujourd'hui volontiers en porte-parole des pays pauvres, en réalité, les relations de la Chine avec l'Afrique relèvent d'un échange inégal, exactement comme avec les puissances occidentales. Mais il y a une différence de taille. Là où la France, le Royaume-Uni et surtout les États-Unis réalisent chaque année des dizaines d'interventions militaires en Afrique pour protéger des régimes amis, la Chine n'a presque aucun moyen militaire sur le continent. Elle n'a qu'une seule base, avec quelques centaines de soldats à Djibouti, quand la France a 6 bases et que les États-Unis ont un réseau de forces spéciales disséminées sur tout le continent. La Chine doit compenser cette faiblesse par l'intervention financière de son État. Ainsi, en 2008, lors du krach des prix des matières premières, les entreprises chinoises ont racheté des mines dont l'exploitation n'était plus rentable. Tandis que certaines entreprises occidentales se retiraient, l'État chinois a compensé les pertes financières de ces groupes pour favoriser leur maintien en Afrique. Pour les puissances occidentales, la Chine n'est pas seulement une rivale, elle reste un sous-traitant. Lorsqu'une entreprise chinoise exploite une mine de coltan délaissée par les capitaux occidentaux et exporte le minerai en Chine pour fabriquer des téléphones portables, à la fin, qui empoche le magot ? À 90%, c'est l'américain Apple. La Chine s'est intégrée dans le marché mondial, dans une position intermédiaire. Elle réalise un échange inégal avec l'Afrique, mais est elle-même victime d'un échange inégal avec l'Occident. Sa présence accrue en Afrique renforce ses liens de subordination, dans lesquels les bourgeois occidentaux, et d'abord américains, restent en position de force. Dans la rivalité permanente entre grandes puissances pour exporter leurs produits industriels et leurs capitaux, pour sécuriser les sources de matières premières, la Chine ne joue pas dans la même catégorie que les pays impérialistes. Partout, ce sont les États-Unis qui sont à l'offensive. En Afrique, la domination américaine a pris depuis une quinzaine d'années une forme militaire plus directe. La désagrégation des États africains et la généralisation des guerres ont poussé les États-Unis à s'impliquer de plus en plus directement au nom de la guerre contre le terrorisme. En 2007, l'armée américaine créa une division permanente, le Commandement militaire unifié pour l'Afrique, ou AFRICOM. Il compterait 6 000 hommes et dispose d'une base militaire permanente à Djibouti. Mais sa stratégie est plus d'agir via les armées locales, par la formation, le contrôle, le renseignement. Il a ainsi établi un réseau de coordination et de commandement à l'échelle du continent avec des bureaux dans 38 États africains. Lors de la guerre de Libye en 2011, c'est AFRICOM qui a organisé et soutenu l'action de toutes les armées occidentales, fournissant les renseignements et une grande partie de la logistique. En 2013, quand la France intervenait au Mali, les États-Unis établissaient un camp au Niger voisin, ancienne colonie française, où ils ont maintenant 800 soldats. Mais on ignore l'écrasante majorité des interventions américaines, qui ont lieu en toute discrétion. En 2014, il y en aurait eu 68 des opérations militaires directes. De plus en plus d'officiers africains sont par ailleurs formés par les États-Unis. Chaque année en Afrique de l'Ouest, un exercice militaire appelé Flintlock mobilise des centaines de soldats de l'OTAN et des armées africaines. Des officiers entraînés dans ce cadre, comme le colonel Goïta, ont été impliqués dans les coups d'État au Mali, mais aussi au Burkina Faso et en Guinée. Les États-Unis et derrière eux les puissances de seconde zone comme la France condamnent en parole ces coups d'État, mais en réalité, ils s'en accommodent parfaitement. Le général américain d'Africom a déclaré à propos du colonel Putschis en Guinée que « nous partageons des valeurs fondamentales », précisant sans rire qu'il s'agissait des normes démocratiques. Derrière le baratin sur la transition démocratique, la bauxite de Guinée continuera à être pillée par les géants miniers, l'anglo-australien Rio Tinto, le russe Russal, l'américain Alcoa et une entreprise chinoise, tous à la fois rivaux et complices. Cependant, même si le bâton des États-Unis est de plus en plus gros, pour reprendre le proverbe déjà cité, leur hégémonie passe avant tout par leur puissance économique. Leur poids déterminant à la Banque mondiale et au FMI, qui possèdent 31% de la dette des États africains, compte autant que le militarisme. La Chine ne détient que 16% de la dette publique africaine, alors que des financiers privés en possèdent 60%. Parmi ces vautours de la finance, les banquiers américains, Citigroup, JP Morgan, Bank of America, le fonds BlackRock sont en première place. Et il y a aussi la banque britannique Barclays, l'assureur allemand Allianz, le Crédit Agricole, BNP Paribas, la Société Générale. Enfin, la domination américaine, c'est aussi le dollar, la monnaie dans laquelle se règlent la plupart des échanges commerciaux internationaux. Alors que l'Afrique ne représente que 3% du commerce mondial, l'intérêt des États-Unis pour ce continent a longtemps été marginal. Mais pour contrer l'avancée de leurs concurrents, les États-Unis sont à l'offensive. En 2014, puis en décembre 2022, ils ont organisé des sommets États-Unis-Afrique. Lors du dernier, Joe Biden a annoncé 55 milliards de dollars d'investissement pour les 3 ans à venir. Le continent est toujours plus convoité et pillé. Mais au cœur de ce chaos, les richesses que pompent les capitalistes sont produites par une classe qui ne fait que se renforcer, le prolétariat. Cette transformation s'accélère depuis des décennies. Les paysans sont chassés des campagnes par la chute des prix agricoles. Et aujourd'hui, près de la moitié de la population africaine vit en ville. Au Mali, un pays enclavé et l'un des moins industrialisés d'Afrique, la capitale Bamako comptait à peine 100 000 habitants au moment de l'indépendance. 50 ans après, en 2009, c'était 1,8 million. Depuis, la guerre au Sahel a encore accéléré le processus et Bamako compte aujourd'hui 3,5 millions d'habitants. Et un plus grand nombre encore de Maliens est parti dans les grandes villes des pays voisins, à Abidjan, à Dakar, et une minorité a émigré en Europe, notamment à Paris. C'est un bouleversement immense, du même type que celui décrit par Marx il y a 150 ans pour l'Europe. Plus que jamais, le capitalisme mondialisé brise par le feu et le sang l'isolement des villages et des nations et forge une armée de millions de prolétaires. Reliés par des milliers de liens, ils forment une vaste chaîne, depuis les relations de voisinage dans les courées des grandes villes jusqu'aux appels téléphoniques à des milliers de kilomètres. Mais pour les observateurs internationaux, ce prolétariat n'existe pas. Pour eux, l'Afrique est remplie de réfugiés, de migrants, de miséreux. La réalité, c'est que tous ont une chose en commun. Ils doivent travailler pour vivre. Et tous les jours, il faut se battre pour nourrir sa famille, pour se faire respecter du patron. comme les casseuses de pierre du roman Photo de groupe au bord du fleuve qui stoppent le travail pour exiger un meilleur prix du gravier qu'elles fournissent aux intermédiaires d'un chantier d'un aéroport international. À Bamako, comme à Abidjan, Dakar ou Lagos, la grande majorité des travailleurs vit de petits boulots. Ceux qui ont des économies achètent une moto pour faire moto-taxi ou un étal pour vendre des cigarettes, du thé ou d'autres denrées. Les autres se font embaucher sur les chantiers comme porteurs d'eau ou d'autres boulots de manutentionnaires au port, dans les commerces. C'est ce que les économistes appellent des travailleurs informels, car ils ne rapportent pas de profit à un patron bien identifié. Mais cette vision patronale est bien myope. Un porteur d'eau, une femme qui fait bouillir la marmite pour la famille, un vendeur de rue, tous travaillent tous les jours et sont indispensables. Certains partent se faire embaucher dans les mines d'or, la principale richesse du Mali. Ah là, pas de doute, ils rapportent très formellement aux grands groupes occidentaux. Sauf que ce sont les mêmes travailleurs, car beaucoup d'ouvriers des mines sont journaliers, passent quelques semaines ou quelques mois sur place, puis retournent en ville. L'exploitation n'a pas besoin d'un contrat de travail, elle est collective. Et ceux qui ont un contrat de travail, surtout dans les entreprises publiques ou les grandes sociétés, sont tout autant exploités. Par exemple, au Mali, la plus grande société de sécurité du monde, la britannique G4S, emploie un millier de vigiles. Ils assurent le gardiennage des ambassades, des institutions internationales, des résidences des riches. Certains gardiens ont surnommé G4S la sangsue, car le salaire est d'environ 100 euros pour 12 heures de travail par jour. Les agents de G4S ont fait plusieurs grèves pour de meilleurs salaires et conditions de travail. Le patron a répliqué en licenciant 500 d'entre eux en 2021. Des licenciements validés par les juges maliens. Entre vampires, on se serre les coudes. En Afrique, comme partout sur la planète, les travailleurs sont à la base de toute la richesse. Et ça leur donne du poids pour combattre l'exploitation. Les dockers du port d'Abidjan, la principale porte d'entrée des richesses d'Afrique de l'Ouest, ont plusieurs fois fait grève pour leur salaire ces dernières années, arrêtant largement la machine économique. En République démocratique du Congo, dans les mines industrielles, qui sont bien plus nombreuses que les mines artisanales montrées dans les reportages, dans les fonderies produisant des plaques de cuivre et les raffineries de cobalt, les travailleurs se battent, ne serait-ce que pour faire respecter le paiement des salaires et la fourniture des équipements de sécurité. En 2020, lors du Covid, dans une grande mine du Katanga, 6000 travailleurs ont été confinés sur leur lieu de travail pendant 2 mois. Et se sont battus pour avoir une allocation supplémentaire. Lors de ces grèves, patrons étrangers et politiciens locaux sont complices, y compris ceux comme Katumbi, qui gouvernait le Katanga et qui s'oppose en défenseur des Congolais contre les exploiteurs étrangers. Lors de plusieurs grèves, Katumbi s'est déplacé en personne faire des boniments aux travailleurs, avant d'envoyer la police les dégager. Chacune de ces luttes met ainsi aux prises les exploités aux exploiteurs de toute nature et dévoile qui sont leurs amis et leurs ennemis. C'est le lot commun de tous les habitants des quartiers pauvres lorsque les autorités font des déguerpissements, c'est-à-dire décident de raser un quartier pour une opération d'embellissement ou quand un promoteur immobilier veut récupérer les terrains. Mais plus d'une fois, la police et les bulldozers ont dû affronter la mobilisation des habitants du quartier. Alors, du côté des tiers-mondistes de diverses variantes, on nous répète que la frontière est entre les pays du Nord et ceux du Sud, que l'Afrique est une victime malheureuse du pillage, mais c'est une vision paternaliste et fausse. Le capitalisme continue de développer en Afrique une classe ouvrière, nombreuse, jeune, et qui n'a que ses chaînes à perdre. Comme le proclamait déjà le manifeste communiste, la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs. « Il y a aujourd'hui différents courants qui dénoncent les aspects les plus révoltants de la domination impérialiste. Après des décennies de France-Afrique, il y a la résurgence d'un courant panafricain qui réclame le départ des troupes françaises et la fin du franc CFA. Oui, 60 ans après la fin des colonies, la monnaie principale d'Afrique de l'Ouest est toujours contrôlée depuis Paris. Alors nous aussi, nous disons « Abat la tutelle de la France, troupes françaises hors d'Afrique !» Mais ce programme ne suffit pas aux exploités. Les casques bleus de l'ONU, les armées locales et toutes les autres bandes de mercenaires sont au service du même système d'exploitation que l'armée française. Pour les travailleurs, ce qui compte, ce n'est pas d'être payé en francs CFA, en naira nigérian, en écho, la future monnaie d'Afrique de l'Ouest ou en yuan. Ce qui compte, c'est le montant de la paye. Ceux qui prétendent que changer la monnaie va résoudre les problèmes des travailleurs sont des menteurs. Ce courant souverainiste qui se réclame de Sankara, de Lumumba ou du Ghanéen Nkrumah est dirigé par des notables et des petits bourgeois. Ils parlent au nom des intérêts des populations, mais sont surtout guidés par leurs ambitions de parvenir au pouvoir et de profiter des privilèges qu'ils offrent. Il y a aussi des mouvements se revendiquant de l'humanitaire ou de l'écologie qui militent contre des projets de multinationales comme le pipeline ICOP en Afrique de l'Est. Mais il faut distinguer deux choses. D'un côté, il y a les habitants qui refusent d'être dégagés sans solution des sites d'exploitation et qui se heurtent à la police et aux milices privées des compagnies. Et eux, ils ont mille fois raison. Et de l'autre, il y a un courant politique qui prétend influencer les dirigeants en faveur des droits des citoyens ou de l'écologie. Ils adressent des pétitions pour convaincre les banques et les assureurs de Total qu'ils ne devraient pas soutenir le projet ICOP. Pour ne pas subir la pollution des industriels, ils en sont à intercéder auprès des dieux de la finance. Ces mouvements réformistes, présents surtout dans la petite bourgeoisie, sont impuissants. Vouloir empêcher les projets dévastateurs des grands groupes sans renverser l'impérialisme de fond en comble est une utopie. Et quand ils le font au nom du souverainisme, de la défense des modes de vie traditionnels, c'est même réactionnaire. L'Afrique ne peut pas échapper à l'intégration dans le capitalisme. Mais celui-ci n'amène pas seulement la pauvreté et la pollution. Dans un village le plus reculé de l'est du Congo, il n'y a pas de route carrossable, mais il y a des téléphones 4G pour communiquer par vidéo à l'autre bout du monde et des marchandises venues des pays les plus éloignés. Elles viennent en camion par des chemins qui paraîtraient inaccessibles même en 4x4. Sauf qu'il y a une armée de travailleurs capables de les amener. Et c'est cela qui ouvre un autre avenir. Tous ces liens de production, de communication et d'échange doivent se transformer en unité politique des travailleurs. C'est cela qui manque aujourd'hui. Car des luttes déterminées, embrassant des millions d'hommes et de femmes, il y en aura. Fin 2014, au Burkina Faso, les jeunes et les pauvres, massivement mobilisés, ont imposé le départ de Blaise Compaoré. Mais l'armée est immédiatement entrée en scène et a convoqué des opposants et des associations citoyennes pour jouer la pièce de la transition démocratique, avec l'appui de la France. Et comme le chaos politique n'a fait que s'aggraver, en 2022, l'armée s'est imposée directement au pouvoir. Pour les classes populaires, c'est toujours la survie au quotidien. Dans bien des pays, cette histoire s'est répétée. Au Sénégal, la colère a explosé ces dernières semaines contre le président Macky Sall et l'incapacité de son régime à répondre aux aspirations de la jeunesse. Mais si son opposant le remplaçait au pouvoir, rien ne changerait pour les classes pauvres, confrontées au chômage et à la vie chère. Ces problèmes, seuls les travailleurs eux-mêmes peuvent les résoudre, en défendant collectivement leurs intérêts. Des salaires décents et réguliers permettant de faire face à la flambée des prix, la fin du travail journalier est payée à la tâche, l'accès à la santé et à l'éducation pour les enfants, des logements dignes. À chaque révolte, des mouvements d'opposition, des associations démocratiques ou des militaires même répandent des illusions de changement à la tête de l'État. Mais nulle part les classes populaires n'ont quoi que ce soit à en espérer. Partout, les classes laborieuses ne peuvent compter que sur elles-mêmes. L'exemple de l'Afrique du Sud doit nous servir de leçon. Dans ce pays le plus industrialisé du continent, où le prolétariat représente depuis longtemps une force, ce sont les luttes des travailleurs qui ont abattu l'odieux régime d'apartheid. Mais si le racisme d'État a disparu, l'oppression sociale et l'exploitation demeurent. Elles se sont même aggravées. Et dans les grèves, les travailleurs s'affrontent aux forces de police et au pouvoir de l'ANC, le parti de Mandela, qui sert les capitalistes, qu'ils soient blancs ou noirs. À chaque fois que les travailleurs sont entrés en lutte derrière des dirigeants nationalistes de la petite bourgeoisie, ils se sont retrouvés dans un piège. Pour que les combats des masses pauvres débouchent sur un changement profond, ils font opposer aux revendications démocratiques bourgeoises un programme de classe. Le prolétariat n'a pas d'intérêt national, pas de propriété privée, pas de privilèges à défendre. L'avenir de plus d'un milliard d'habitants d'Afrique se confond avec sa capacité à se mettre à la tête des masses pauvres dans les luttes futures et à s'attaquer aux capitalistes, qu'ils soient africains, occidentaux ou chinois, aux États nationaux qui défendent leurs intérêts et au-dessus d'eux à la domination impérialiste. Et dans ce combat, le prolétariat d'Afrique a un autre levier. Ce sont ses liens avec les travailleurs d'Europe, d'Amérique et même de Chine. Lors de la vague de révolte des années 1950-60, l'impérialisme avait été contesté dans les pays pauvres, mais pas réellement menacé au cœur dans ses citadelles. Mais à l'époque, les liens internationaux étaient plus faibles qu'aujourd'hui. En Afrique, le prolétariat ne formait lui-même qu'une petite minorité, tandis que de larges couches de la population vivaient encore en marge des échanges capitalistes. L'intégration de l'Afrique dans l'ordre impérialiste est aussi passée par l'émigration. Des milliers de jeunes se lancent chaque année dans la traversée vers l'Europe, prêts à tout risquer. Ils se heurtent à la politique criminelle des puissances européennes à leurs frontières. Même pour ceux qui réussissent à arriver en Europe, les difficultés ne sont pas finies et beaucoup ressentent du désenchantement. Mais en rejoignant ainsi les rangs de la classe ouvrière européenne, ils contribuent à tisser des liens à l'échelle planétaire entre les exploités. Dans la plupart des pays d'Europe, pas une usine, pas un grand chantier, pas un hôpital ne peut fonctionner sans les travailleurs d'Afrique. Un vigile de G4S au Mali a peut-être un frère ou un fils à Paris qui a presque le même uniforme et surveille une gare, un entrepôt ou une usine pour Securitas, Brinks ou une autre sangsue. Lui aussi fait des journées de 12 heures pour un salaire certes supérieur, mais qui ne permet pas de payer ses factures sans faire des heures supplémentaires ou un deuxième boulot. Et tous ces travailleurs parlent tous les jours par WhatsApp avec leurs familles ou leurs amis restés au pays. Ces liens sont une force extraordinaire. Toute lutte résolue des travailleurs d'Afrique provoquera un électrochoc parmi la couche de travailleurs la plus exploitée des pays impérialistes. Celle aussi la moins influencée par le réformisme des organisations syndicales et politiques. Dans les années 60, les Noirs américains, la fraction la moins organisée et la plus exploitée du prolétariat des États-Unis, s'était révélée brusquement comme la force motrice des opprimés, au cœur même de la citadelle de l'impérialisme mondial. Aujourd'hui, l'unification du monde est bien plus profonde. La classe ouvrière africaine est présente d'un bout à l'autre de la chaîne de production capitaliste. Des bidonvilles les plus infâmes du Mali jusqu'aux usines et aux laboratoires les plus modernes des États-Unis. Cette situation lui donne un rôle déterminant dans la révolution mondiale. Il y a plus de 100 ans, la mondialisation capitaliste avait fait naître dans la Russie tsariste le prolétariat le plus jeune, le plus exploité d'Europe. Des militants en lien avec la Deuxième Internationale, dont les grandes organisations étaient en Europe de l'Ouest, y implantèrent les idées marxistes. Et en 1917, défiant bien des pronostics et des préjugés, ce furent ces travailleurs russes qui reprirent finalement le meilleur des idées révolutionnaires, qui ébranlèrent le monde et régénérèrent le mouvement ouvrier. Aujourd'hui, le prolétariat d'Afrique a bien des traits similaires. Il est jeune, combatif, concentré dans d'immenses villes. Tout le continent est une cocotte minute où les coups de colère sont permanents, où les illusions réformistes n'ont pas la base matérielle qui les nourrit encore dans les pays riches. Même partie d'un seul pays, une révolte profonde serait contagieuse. On ignore bien sûr dans quel pays, d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs, démarreront les prochaines luttes des travailleurs, mais elles exploseront nécessairement. Et par sa situation, la classe ouvrière africaine pourrait être une force motrice pour dépasser les préjugés nationaux, secouer les illusions et la routine, et entraîner les autres travailleurs qu'elle côtoie sur tous les continents. Mais cette perspective ne se concrétisera que si elle devient un objectif conscient. Que ce soit en Afrique ou dans les citadelles de l'impérialisme, il faut que des jeunes et des moins jeunes s'engagent pour défendre les idées communistes révolutionnaires avec l'énergie de ceux qui ont osé traverser les mers ou qui doivent se battre chaque jour pour leur survie. La perspective de la révolution ouvrière n'est pas un rêve. Elle est préparée par toute l'évolution de l'économie mondialisée actuelle. Elle est une nécessité dans la marche de la société humaine. Alors s'engager dans ce combat, c'est finalement la seule manière de préparer une page nouvelle pour l'Afrique comme pour l'humanité entière.